PME Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, en partenariat avec GFIP et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être très nombreux à nous écouter et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guillaume Dozinel, associé et dirigeant de GFIP et également Johan Melloul qui est directeur associé et directeur du réseau régional de Inextinso Finance. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Fabrice Boé qui est CEO d'Inès de la Fraisse-Orange. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1962, diplômé d'HEC et une première vie pendant 15 ans chez L'Oréal. Vous avez eu combien de jobs différents en 15 ans ?
Beaucoup, on bouge beaucoup chez L'Oréal.
Ouais. En France, à l'international aussi ?
En France, en Italie et puis avec beaucoup de voyages, oui.
Et alors, votre meilleur souvenir de L'Oréal, c'était quoi ?
Oh, j'ai beaucoup de bons souvenirs et puis à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose, mais j'ai beaucoup de bons souvenirs. Notamment à l'international, avec Lancôme, avec L'Oréal, la marque L'Oréal.
Donc. Des belles marques, quoi.
Ouais, et puis, à l'époque, on avait aussi l'occasion de fréquenter les plus belles filles du monde. Ça faisait partie du job.
Et là, c'est fini, ça? Non, alors, c'est un autre sujet. Alors, ensuite, Hermès, et vous rentrez dans les médias, dans un groupe allemand?
Oui, mais pour diriger les affaires en France et puis également être membre du board en Allemagne. Donc on avait un gros groupe de presse en France.
Prisma.
Prisma, exactement. Prisma qui est devenu Prisma Media avec des jolis titres. Un gros impact parce que c'était des centaines de millions d'exemplaires par année.
Bah, il y a Capital, il y a Management, il y a Gala.
Femme actuelle était un phénomène de société.
Et après, vous avez fait un choix de vie en 2013, donc vous avez rejoint Inès de la Fraisse-Orange. Alors, un mot sur l'historique, la marque était lancée en 1991.
Oui, absolument, elle avait été créée par Inès et la famille Vuitton avec Henri Racamier à l'époque. Et puis, pendant une dizaine d'années, ça avait très bien marché. Il y avait malheureusement une dispute, donc Inès avait dû quitter la société. Et nous, on a eu l'occasion de la racheter en 2013. Avec l'idée, moi, que j'avais de relancer une marque de luxe à la française, même si c'est du luxe accessible, mais très incarné en plus avec Inès. Donc, on avait interrogé Inès pour savoir si elle reviendrait avec nous.
Oui, ça, c'est très important.
Et elle avait accepté, ce qui nous avait, nous, donné envie vraiment de sauter le pas et de reprendre cette marque merveilleuse.
Et comment vous avez fait pour financer la reprise de la marque? Parce que faut acheter, puis après, il faut un peu de sous pour développer.
Oui, alors, on a rassemblé des investisseurs pour racheter. On n'a pas eu beaucoup d'argent en plus. Mmh. Et donc, on a généré nos propres moyens. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a relancé en 2015, donc 8 ans après. Il faudrait peut-être maintenant injecter de nouveaux moyens pour
une
deuxième phase. Exactement.
Alors, le volume d'affaires total généré par cette marque, cette maison, c'est autour de 200 millions d'euros. Il y a une partie en propre et une partie avec des partenaires, Fabrice.
Oui, il y a une grosse partie avec des partenaires parce qu'on a eu des gros partenaires, ce qui montre d'ailleurs la force de la marque parce qu'on a attiré des partenaires de taille mondiale comme Uniqlo pour les citer. Et puis il y a une partie qu'on génère nous-mêmes, qui malheureusement est plus petite, mais je ne désespère pas que petit à petit on...
Ça grandisse, quoi.
Exactement.
Et la résonance de cette marque, elle est nationale, c'est certain, franco-français, mais il y a également d'autres pays, le Japon, l'Asie peut-être.
Alors d'abord elle est incroyablement connue en France. Il y a 85% des femmes de plus de 18 ans qui connaissent le nom et qui citent spontanément élégance, sourire, oui, qui sont les deux composantes principales de la marque. Et alors après, elle est très connue dans beaucoup de pays d'Europe, notamment en Italie, mais également en Allemagne, au UK, Espagne, etc., aux États-Unis, et puis dans les grands pays d'Asie, Japon traditionnellement, Chine, notamment depuis la collaboration avec Uniqlo, et puis un petit peu Corée aussi maintenant.
Guillaume, vous qui êtes un garçon élégant.
Oui, le chic parisien est inspirationnel pour le monde entier. Comment pourriez-vous le définir ?
Nous, on a un mot, je ne sais pas s'il est... Moi, je l'aime bien. Alors, il est anglais, on dit « effortless elegance », l'élégance sans effort. Et je trouve que c'est exactement ça, le chic parisien.
Merci. Comment déclinez-vous ce chic parisien en produit et quelle est l'étendue de votre gamme ?
Alors, le cœur, c'est le prêt-à-porter, mais c'est une gamme, c'est une marque qui a vocation à être présente sur beaucoup de segments. Concrètement, ça veut dire de la maroquinerie, des lunettes, des parfums, des gants, et on a même un vélo électrique. En fait, on a essayé de couvrir tous les besoins de la Parisienne, qui est en fait la femme moderne d'aujourd'hui, dans sa vie quotidienne. Partout où on peut apporter une valeur ajoutée, on le fait. Donc, c'est très vaste, avec un cœur autour du prêt-à-porter, qui est quand même la silhouette d'Inès.
Ok. Et justement, Inès de la Fraisse-Orange, quel est son rôle dans l'entreprise? Quelles sont ses actualités?
Alors, elle est très impliquée dans la création, qu'elle supervise totalement, dans laquelle elle impulse beaucoup de choses. Et puis, c'est également l'ambassadrice de la marque. Donc, elle est au total, elle est très présente. Oui.
Je crois que vous vous développez en Chine. Quelle est votre stratégie?
Oui, alors on se développe en Chine autant qu'on peut. Alors on a été présent sur Tmall, donc dans le groupe Alibaba. Je pense qu'on va changer maintenant de réseau. C'est un peu trop massif pour nous. On a un agent qui nous représente physiquement, qui prend des commandes, et on va être présent dans de plus en plus de magasins physiques en Chine. C'est quand même moins facile que ce qu'on croit, mais très excitant, parce que c'est, selon toutes les études, déjà aujourd'hui un des plus gros marchés mondiaux, et toutes les études prévoient que ça sera le plus gros marché du monde dans les années qui viennent. Les clients sont, la clientèle est très ouverte, très avide de consommation, et toujours fascinée par Paris, donc on a quelques atouts à faire valoir.
Vous évoquiez Uniqlo. Quel est le bilan de votre collaboration avec eux?
Ah, c'était une très belle collaboration qui dure depuis 10 ans, ce qui est merveilleux. 2 collections par an. Donc, on va arriver à la 21e collection, ce qui est jamais vu. C'est une marque qui s'est très bien mariée avec nous en apportant leurs produits, leur technicité. Nous, on a apporté un peu de style parisien. Donc, ça a très, très bien fonctionné dans le monde entier.
Le client type d'Inès de la Fressange, il est, en tout cas pour la France, c'est d'abord des femmes, il y a aussi des chemises pour les hommes.
Hein, il y a quelques chemises pour les hommes, et très belles d'ailleurs. Et essentiellement, c'est une clientèle féminine. Et il y a deux pôles, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a la mère et sa fille. La mère qui a 45 ans et plus, qui se projette en Inès et qui a toujours connu Inès. Et sa fille, au moment où elle commence à travailler, donc pas quand elle est teenager, où elle a besoin d'être élégante mais pas apprêtée, d'avoir des produits de qualité mais pas inaccessibles, de pouvoir les mixer avec des produits plus décontractés, pouvoir porter les mêmes pièces d'une saison à l'autre sans avoir l'air démodé, et les mêmes pièces au bureau, puis le soir en sortant du bureau. Et nous, on coche à peu près toutes les cases. Donc, on est très heureux d'habiller la mère et la fille.
Johan.
Alain évoquait à l'instant la manière de financer un challenger tel que vous sur un marché énorme comme le vôtre. Est-ce que ça a des conséquences particulières sur votre mode de gouvernance et sur la gouvernance globale de l'entreprise?
Oui, vous mettez le doigt sur un point particulier. On est dans un monde, le nôtre, où les investissements font la différence quand même. Donc, on a la chance d'avoir une marque merveilleuse, on a la chance d'avoir des produits qui sont bien conçus, bien dessinés. On a, pour l'instant, essentiellement que les moyens qu'on génère nous-mêmes, et c'est un petit peu juste. Donc, on progresse, mais j'aimerais qu'on progresse plus vite, et pour ça, il faut un peu plus d'argent. Pour deux choses, hein, essentiellement, les moyens, investir dans le digital pour communiquer, être présent là où sont les consommatrices du monde entier, et ça coûte de l'argent. Et puis ouvrir des magasins en propre, qui restent quand même le nerf de la guerre. À un moment donné, on a cru que c'était périmé, mais pas du tout.
C'était ma question suivante, justement. Est-ce que vous jugez que sur un positionnement de gamme comme le vôtre, où le retail reste important et le fait d'avoir des points de vente est important, est-ce que dans votre stratégie, c'est encore nécessaire?
Oui, alors que je vous dis, à un moment donné, il existe des marques purement digitales, et je c'est pas du tout une critique, mais quand même, pour la plupart des marques dans les mêmes segments que les nôtres, avoir une présence physique, ça fait deux choses. Ça fait d'abord que les clientes peuvent toucher les produits, les essayer, les voir, et les voir dans de bonnes conditions. C'est quand même très important. Et puis la deuxième chose, c'est un point de vue financier. On récupère la marge de distribution, et dans nos secteurs, ça pèse lourd.
Oui. Et donc aujourd'hui, la gamme de prix, alors ça dépend du modèle, mais vous êtes luxe, grand luxe?
On est du luxe accessible. Alors peut-être un point de repère facile à comprendre pour les sacs. On se situe entre 400 et 800 euros. Oui. Et qui est d'ailleurs un segment qui est pas très travaillé. Il y a beaucoup de sacs moins chers, il y a des sacs plus chers, et nous, on est pile dans un segment.
Oh là là, le
on est très heureux d'être là, à nous maintenant de le développer.
Johan,
est-ce que à votre stade de développement, vous arrivez à faire du made in France?
Oui, alors de plus en plus. D'abord, on l'a toujours voulu et c'était très difficile, à la fois parce qu'on a perdu des compétences objectivement, et puis que c'était très cher. Et le Made in France devient compétitif pour deux raisons. D'abord parce que le reste du monde augmente et que le Made in France se modernise et devient compétitif. Donc on a aujourd'hui une part significative du prêt-à-porter, par exemple, qu'on fabrique en France. Pour la première fois cette saison, on vend des manteaux et des pantalons faits en France. C'était impensable il y a encore quelques saisons. Je suis très très heureux, très heureux.
Made in France et l'Europe, quoi. L'actualité, elle est riche, hein, ça va du Qatar à Lyon.
Oui, c'est ça, exactement. On voudrait cette année ouvrir à Lyon un magasin en propre, donc à nous, avec un petit investissement, un peu de capex là, et puis à Doha avec un partenaire avec qui on est en pourparlers très avancé. Ça se passe très bien d'ailleurs.
Bon, vous, il paraît que vous pédalez tout le temps.
Ah, j'aime beaucoup le vélo. Oui.
Est-ce que c'est un vélo Inès ou c'est autre chose?
Alors, on a un vélo électrique Inès pour les déplacements urbains.
Ouais.
Mais le week-end, je prends un vélo un peu plus sportif.
Ouais. Combien de kilomètres par semaine en moyenne, dis-tu, Fabrice?
Alors, je vais tous les jours au bureau en vélo. Donc, je fais, je sais pas, de 2000 kilomètres par an en ville.
Ouais.
Et puis quelques autres milliers en dehors de la ville. Ouais.
Dernier livre lu.
Alors, je suis en train de lire L'Ange de Berlin de Massimi, qui est un roman historique. J'aime beaucoup cette recréation d'univers dans le temps qui me font plonger dans des époques que j'ai pas connues, pas une époque très drôle d'ailleurs parce que c'est l'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'est pas très sympathique.
Mmh. Acheter un jour quelques vignes dans le Beaujolais, c'est un rêve que vous caressez,
c'est,
Fabrice?
Ah oui, c'est toujours un projet, mais je pense que les gens vont commencer à se moquer de moi parce que ça fait un an et demi qu'on...
Vous réfléchissez, il faut...
On cherche les bonnes terres.
Les bonnes terres, quoi. Ouais. Et pour terminer, vous soutenez, vous, à titre perso, ou alors l'entreprise, des causes caritatives ou humanitaires?
Moi, j'ai toujours été sensible aux animaux, que je trouve des êtres qui sont à la merci des hommes. Donc la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, c'est quelque chose qui me touche.
Merci beaucoup, Fabrice. L'adresse à Paris, c'est où?
Allez tous 24 rue de Grenelle, mais vous pouvez également aller aux Galeries Haussmann ou au Bon Marché Rive Gauche, vous nous trouverez.
Merci beaucoup, Fabrice. Merci également vous, Guillaume et Johan. Fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, ça sera 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec GFIP et Inextinso.